Voici le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Cacher ce nez que je ne saurais voir, le masque partout quasi tout le temps, est-ce bien nécessaire? Le débat est ouvert devant le Conseil d'État ce matin. Portland, États-Unis, 100e jour de manifestation contre le racisme et les violences dans la police avec des affrontements dès le début. Reportage dans ce journal. Dans l'actualité encore, une attaque à Birmingham au Royaume-Uni cette nuit. Plusieurs personnes poignardées selon la police, on n'en sait pas plus pour l'instant. Réveillez-vous, le slogan de Marine Le Pen, discours cet après-midi devant les militants à Fréjus dans le Var. Joue là comme Cannes, le festival de Deauville accueille un bout de croisette et puis la page des sports, l'échec de trop pour Thibaut Pinot sur le tour et du tennis, l'US Open, des règles Covid pas toujours très claires, c'est ce qu'on verra à la fin du journal.
Et puis un mot sur notre invité à partir de 8h20, ce sera l'historien Patrick Veil, le co-auteur du livre Georges Clemenceau, Lettres d'Amérique, quand le jeune Clemenceau était journaliste aux États-Unis.
France Inter. Le masque obligatoire partout, est-ce vraiment nécessaire? Le débat est plus que concernant, il est grand ouvert et il se rejoue ce matin sur le terrain judiciaire. Les tribunaux administratifs ont retoqué cette semaine les arrêtés pris à Lyon, Villeurbanne et Strasbourg. Des arrêtés qui imposaient le port du masque sur tout le territoire, 24 heures sur 24. L'État a fait appel et l'audience devant le Conseil d'État, c'est ce matin à 11h. Explication avec Mathilde Imberti à Lyon.
Il règne à Lyon un grand flou depuis que le tribunal administratif vendredi a retoqué l'arrêté rendant obligatoire le port du masque partout et à toute heure. Le tribunal considérant que le préfet doit limiter l'obligation aux lieux à forte densité de population et aux heures les plus risquées. C'est une association de citoyens lyonnais montée très récemment il y a 10 jours qui a saisi la justice, les essentialistes pour qui la liberté individuelle est compromise par ce genre d'arrêté. Leur avocat Sébastien Brac.
C'est la liberté d'aller et venir et puis la liberté individuelle tout court, qui est consacré par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le fait d'être contraint de faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire. La liberté d'aller et venir, parce que dès qu'on sort sans masque, on risque la verbalisation. Il y a des gens qui ne supportent pas le masque, et vous avez des gens qui osent même plus sortir de chez eux, quoi. Ils sont reconfinés de fait à cause des arrêtés de port du masque.
Le Conseil d'État doit trancher alors que la situation sanitaire se dégrade à Lyon et dans le Rhône. Le département est placé en zone rouge avec presque 7% de tests positifs. Situation comparable à celle de Marseille et des Bouches-du-Rhône. De Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Le gouvernement qui annonce par ailleurs la fabrication de près de 100 000 masques transparents. Des masques qui seront distribués d'ici la fin du mois donc aux professeurs qui ont un élève malentendant, mais aussi à tous les enseignants de maternelle. Vous entendrez la secrétaire d'État Sophie Cluzel dans le journal de 9h. Les Bouches-du-Rhône, eux, ont d'un côté élargi les horaires. Il faut désormais porter le masque de 6h à 2h du matin partout dans le département. Et de l'autre, repousser l'heure de fermeture des bars et des restaurants de 23h à minuit et demi. Assouplissement aussi en vue pour la durée d'isolement imposée aux personnes malades et à leurs proches. Le gouvernement devrait revenir sur la quatorzaine et passer à 7 jours. Avis du Conseil scientifique que le ministre de la Santé pourrait suivre selon le journal du dimanche. Le Covid a aussi touché le monde du sport amateur. 120 millions d'euros issus du plan de relance seront consacrés au secteur pour soutenir l'emploi, les équipements et les clubs. Des clubs qui font un peu la danse du ventre en ce moment. Début septembre, c'est l'heure des inscriptions et il faut convaincre autant que rassurer. Comme ici au Forum des associations de Thionville. Reportage Arthur Blanc, France Bleu, Lorraine Nord.
Une grande variété de sports est proposée aux Thionvillois, à commencer par la danse.
Et 1, 2, 3... Et param, param.
Mais aussi le basket, qui est pourtant un vrai sport de contact. Le coach du BC Thionville, Julien Grenner, pouvait donc craindre une influence en baisse. Pourtant, le club devrait bien atteindre les 250 licenciés cette année encore.
Il y en a beaucoup qui se disaient inquiets au début. Maintenant, la règle s'est allégée, donc maintenant on peut faire des matchs. On peut faire du jeu collectif, donc là les parents sont un peu plus calmes.
Et si vous n'êtes pas du genre calme, les disciplines sans contact, ça existe. Beaucoup de parents se mettent en effet à tester.
Les voitures sont télécommandées.
David a 4 enfants à occuper, alors pour les protéger du Covid, c'est l'option parfaite. Il a passé un bon quart d'heure sur ce stand.
Ça peut faire un bon mix entre l'activité sportive et les risques sanitaires.
Mais au stand d'en face, les sports traditionnels aussi veulent montrer qu'ils sont adaptés à l'épidémie. Mathieu Drobiz est maître d'armes à la société d'escrime de Thionville. À coup de démonstration en public, il montre que même la tenue protège de la maladie.
C'est un sport masqué, d'ailleurs la fédération nous a fait une belle pub parce que c'est vrai que nous on avait déjà les masques, on avait déjà les gants et la distance avant le Covid.
Il faudra juste arrêter de serrer la main de son adversaire à la fin du combat.
Il y a aussi les conséquences inattendues du Covid. Annonce du directeur général de la Caisse des dépôts dans le JDD ce matin. L'épargne des Français a gonflé pendant le confinement. 27 milliards d'euros sur le livret A depuis janvier. L'État va s'en servir pour construire des ponts, des logements ou encore des pistes cyclables. Enfin, côté chiffres, un peu moins de 9000 cas de Covid en 24 heures hier. C'est peu ou prou pareil que la veille. Le nombre d'hospitalisations reste faible et stable.
L'actualité, c'est aussi ce matin cette attaque à Birmingham il y a quelques heures.
On n'en sait pas beaucoup plus à l'heure actuelle. La police britannique parle de plusieurs personnes poignardées dans cette deuxième ville d'Angleterre en plein centre du pays. On y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. Deux soldats français du 1er régiment parachutiste de Tarbes tués hier au Mali. Leur blindé a sauté sur un engin explosif à Tessalit dans le nord-est. Portland, États-Unis, 100e jour de manifestation contre le racisme et les violences dans la police avec des affrontements dès le début. C'est ce que nous raconte notre reporter sur place, Grégory Phillips.
Pour la 100e nuit, ils se sont cette fois donné rendez-vous dans un jardin public à l'est de Portland. Ils sont peut-être 2 à 3000 à marcher maintenant vers l'un des commissariats de la ville pour une nouvelle fois dénoncer les violences policières à l'égard des Afro-Américains. Voici Jerry qui se présente ainsi.
Sur mon t-shirt, j'ai écrit « Je suis un habitant de Portland, un vétéran de la marine et un père de famille. On est là pour dire que les vies noires comptent. Il y a 100 jours, on a réalisé que les brutalités policières étaient hors de contrôle. On ne rentrera pas chez nous tant que nos frères et sœurs ne seront pas traités humainement. »
Le cortège rassemble des militants Black Lives Matter, mais aussi des anarchistes, des radicaux. Beaucoup sont casqués et visiblement prêts à l'affrontement. Pas avec les groupes armés d'extrême droite qui ont manifesté plus tôt dans l'après-midi, mais bien avec les forces de l'ordre. La police passe avec des haut-parleurs pour dire que le rassemblement est interdit. Stacy est venue de l'État voisin de Washington.
Je suis là parce que je crois que la situation va empirer. C'est très tendu. Certains historiens pensent que le pays n'a pas été aussi divisé depuis la guerre civile.
Puis les premiers tirs de gaz lacrymogène, la foule des manifestants recule. Ce rassemblement est considéré comme une émeute, prévient la police. Vous devez immédiatement quitter les lieux. La nuit ne fait que commencer. Portland, Grégory Phillips, France Inter.
Manifestations et violences aussi en Allemagne cette nuit. Jets de pierres, voitures brûlées. L'extrême gauche avait appelé à la mobilisation contre les logements trop chers. L'Allemagne qui préside l'Europe et qui montre les muscles si Moscou ne donne pas plus d'explications sur l'empoisonnement de l'opposant Navalny dans les jours qui viennent. Il pourrait y avoir des sanctions.
La politique en France avec la rentrée aujourd'hui du Rassemblement National. Ce sera à Fréjus dans le Var.
Français, réveillez-vous. C'est avec ce slogan que Marine Le Pen compte entrer en matière. Discours à 15h tout à l'heure devant les militants sur l'insécurité principalement. À Fréjus, Maxence Lambrecq.
Marine Le Pen s'impatiente. Qu'elle paraît loin la prochaine présidentielle. La bataille politique s'est assoupie avec l'épidémie. Les Français ont boudé les municipales et s'intéresseront-ils aux départementales et régionales du printemps? Réveillez-vous, leur intime donc la patronne du RN, avant qu'il ne soit trop tard, aurait ajouté son père. Et le message s'adresse d'abord à ses propres troupes qui somnolent, attendent sans entrain la revanche de 2017. Marine Le Pen aimerait aussi réveiller des électeurs de droite qui ne veulent pas d'Emmanuel Macron mais manquent d'un leader. Elle espère engranger sur l'insécurité avec dans le viseur le ministre de l'Intérieur. Darmanin, lâche-t-elle, ses limites s'il ne porte pas une pancarte, je fais comme Sarkozy et derrière les mots, le vide, rien de tangible. Le réveil va sonner aussi sur le plan économique. Ras-le-bol d'être comparé à Mélenchon. Nous devons lever certaines ambiguïtés, expliciter notre projet. Elle dénonce un plan de relance qui se moque des TPE et PME. Petit patron, réveillez-vous, lance-t-elle aussi. Un slogan qui se décline à l'infini et qu'aucun parti n'avait encore pris.
Maxence Lambrecq et la case garde à vue pour le rappeur Ademo, l'un des deux frères du groupe PNL, au commissariat du 14e arrondissement de Paris depuis hier pour usage de stupéfiants, outrage et rébellion. Enfin, un air de croisette sur les plages de Normandie. Malgré le Covid, Deauville a maintenu son festival et ouvert grand ses bras. 9 films sur les 56 qui n'ont pas pu être présentés à Cannes cette année seront projetés. Hier, c'était le premier, un film coréen, Peninsula, joie et émotion du directeur du festival de Cannes, Thierry Frémaux.
C'est pas seulement le fait que je sois là pour représenter les films de Cannes, c'est le fait aussi de se retrouver tous dans le métier, y compris avec vous, les journalistes, avec des artistes, avec des producteurs, et avec ce sentiment que, puisque maintenant il est clair que nous allons vivre, en tout cas encore quelques mois, avec cette épidémie, ben on va faire les festivals avec cette épidémie, et Deauville est le premier d'entre eux.
Est-ce que vous êtes inquiet pour Cannes 2021 ?
Il est trop tôt pour être inquiet, mais il serait bien difficile d'être absolument optimiste. Personne ne sait rien. Il y a deux choses qui vont commander le futur. C'est évidemment la recherche et l'obtention d'un vaccin et la façon dont va évoluer cette épidémie. Moi, je suis heureux de voir que la fréquentation repart. Je crois qu'il y a des gens que ça rassure que les masques soient devenus obligatoires en salle. J'arrive d'Italie, tout le monde maintenant fait, c'est-à-dire nous vivons différemment. Alors, Michael Jackson avait l'habitude de vivre avec un masque, pas nous. S'il revenait sur Terre, il nous verrait tous avec nos masques en rigolant bien de la façon dont on s'était moqué de lui.
C'est une façon de voir les choses. Le ciné reste debout. Thierry Frémaux au micro France Bleu de Nolwenn Lejeune.